Fils de l'Église, visage de saint de René Bazin de l'Académie française. Préface du père Dominique Cata. À la mort de René Bazin, mon grand-père, mes parents et leurs 13 enfants n'habitaient pas encore les rangs jardières, si bien que le petit dernier, Domi, à peine âgé de 6 ans, n'a connu son illustre grand-papa que par la renommée de son nom et plus tard par la lecture de ses plus grands ouvrages. La terre qui meurt, qui me paraît toujours être son chef-d'œuvre, est d'une actualité saisissante à l'heure où la pollution des villes et du ciel fait trembler le monde. Charles de Foucault, qui réveilla ma foi d'adolescent et prépara mon cœur à aimer l'Afrique du Sahel, mon futur pays, après la fondation du monastère de Cœur Moussa par Solem. Bazin fait aimer le silence des déserts de sable, ces tempêtes furieuses d'hivernage, la danse et le rire des petits et des grands, et surtout, il fait voir le cœur des gens, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs. Lisez les pages de ce livre où la vieille France aussi revit 80 ans après sa parution. Les récits de fils de l'Église dont Bazin retrace brièvement les vies ne sont pas vraiment des histoires de saints préfabriqués comme des statues Saint-Sulpice. Ce sont des hommes et des femmes que l'on voit vivre. Voyez par exemple l'enfance de Jeanne, page écrite pour les petits Français à l'époque de la Grande Guerre. Le meilleur Bazin est là. Il capte son lecteur par ses regards sur la vie qu'il perçoit et dont il veut parler pour la faire aimer. À Domrémy-sur-Meuse, en Lorraine, française, une petite fille naquit chez des laboureurs dans la nuit de l'Épiphanie 1412. La nuit était sûrement froide, et les bonnes gens du bourg, fatigués par le travail de la journée, auraient dû, comme d'habitude, veiller au coin du feu. Cependant, une porte s'ouvrait, puis une autre, et une autre encore. « Qu'avez-vous, mon voisin, à mettre le nez dehors et à regarder les étoiles ?» Il nous est venu tout à l'heure une joie au cœur, et nous ne savons pourquoi. Nous pensions que la nuit était douce. Il causait ainsi. Et les coqs, dans les poulaillers, bien qu'on fût loin de l'aurore, s'éveillèrent, et pendant plus de 2 heures, ne cessèrent de chanter. Une petite fille était née. Voilà comment notre auteur nous introduit, sans le dire, dans le mystère de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas l'idéologie de la patrie en danger qui lui fait décrire l'histoire de son héroïne, ni la dynastie des Valois qui était aux portes de la ruine. Mais il veut éduquer aux grandes énergies de l'amour le petit peuple de France auquel il destine ses pages. L'idée de l'Europe n'était sans doute pas encore dans l'air à l'époque du traité de Versailles, qui ne fit que raviver par ses exigences haineuses envers les vaincus le désir féroce de vengeance. Bazin, lui, observateur de la vie dans toutes ses couleurs, surtout celle des hommes et de son temps, devine ce qui la menace. La terre qui meurt. Mais il donne aussi ce qui lui paraît être le moyen de la faire revivre. Il le fait ici par les croquis rapides qu'il dessine sous nos yeux étonnés. Jean-Baptiste de La Salle, autre exemple, je cite « L'homme qui devait fonder pour l'éducation des enfants du peuple l'Institut des Frères des écoles chrétiennes appartenait à une famille de noblesse. » Celui qui devait montrer une conformité si attentive et si soutenue à l'esprit de pauvreté était un riche. » Fin de citation. Et René Bazin fait revivre sous nos yeux comment Monsieur de La Salle, contrarié de tous, sa singularité parut intolérable aux siens, suit pas à pas le chemin de son cœur ouvert à la détresse des pauvres que la France du grand siècle laissé dans l'ignorance. Calomnie, coups bas, Rien ne manqua pour faire tomber ce grand seigneur devenu si humble, tout en gardant la distinction et les manières de son rang, mais de façon si naturelle qu'elle n'humiliait personne. Bazin le fait remarquer. La politesse de monsieur de La Salle vis-à-vis des enfants du menu peuple et de leurs parents élevait sans discours ni leçons humiliantes ceux et celles qui lui sauront gré ensuite de l'honneur et du respect qu'il leur faisait en les traitant comme il faisait pour les grands. Voilà bien une leçon qui peut faire réfléchir sur l'éducation actuelle, devenue si difficile dans les établissements laïcs et même privés, en raison du manque de savoir-vivre et par la suite du sans-gêne dont finalement tout le monde souffre et se prend à trembler pour l'avenir du monde, plongé dans la violence des paroles, des mœurs et des armes. Qui n'a pas entendu parler du curé d'Ars? Oh, ce n'était pas Bossuet ni Fénelon, dit Bazin, mais le cœur chrétien était touché. Ce saint paysan disait des choses sublimes. C'était une âme qui s'ouvrait. On l'avait cru sans talent? Il en avait beaucoup, ayant gardé l'esprit de sa race, sa franchise rude et ce cœur tendre à la misère, comme était celui de la mère Vianney, lorsque chaque soir, elle ouvrait aux mendiants la porte de sa grange et leur portait la soupe qu'elle avait faite pour eux. Un des miracles dus à la prière du curé d'Ars et raconté dans ce livre réveillera peut-être la foi endormie de beaucoup et j'espère redonnera la confiance dans la prière des saints. Le récit de ce miracle du curé d'Ars, qui est quand même de l'ordre de l'évidence, s'adresse aux incrédules du siècle des Lumières, du moins à ceux qui ont encore le cœur ouvert à l'impossible venant de Dieu. L'orphelinat qu'avait fondé le curé Vianney fut à la veille d'être fermé parce que la réserve de blé s'était épuisée dans le grenier de la maison des sœurs. Alors, avant la nuit, prenant une relique d'un de ses saints préférés, le curé d'Ars la plaça sur les derniers grains de blé qui restaient. Au petit matin, avant de renvoyer les enfants, faute d'avoir de quoi les nourrir, il monta de nouveau au grenier avec la sœur directrice. Il n'osait ni l'un ni l'autre ouvrir la porte. Ils l'ouvrirent pourtant. Le grenier était plein de froment. Et Bazin conclut l'histoire par cette réflexion que l'on pourrait faire de nos jours en l'appliquant au désert spirituel de nos vieilles chrétientés. N'était-ce pas l'image de cette pincée de chrétien que le curé d'Ars avait trouvée à Ars et qui était devenue, en plus d'une nuit, il était vrai, toute une moisson. Lisez les pages racontant les conversions du bienheureux Charles de Foucault. Le récit est captivant, brûlant même par endroits, et beaucoup se reconnaîtront dans la découverte de la lumière qui bouleversa de fond en comble une vie traversée par l'angoisse et les tempêtes. Aux dernières lignes de l'avertissement de Fils de l'Église, l'auteur dit des saints qu'ils sont de bons compagnons du travail et de la peine, les plus aimables des hommes et souvent les plus gais. Ils passent en chantant des cantiques. Leur manière ne ressemble pas à celle du monde, mais elle doit être bonne, car la joie est en eux. On devine qu'ils ont un secret. Un jour, nous recevions à Cœur Moussa un ancien camarade de ma classe devenu ministre, puis sénateur et enfin chargé de la commission internationale du satellite Ariane. J'entendis cet homme nous vanter avec raison le génie des savants qu'il réunissait à Dakar, pour des réunions de travail. Surpris de lui voir faire ce déplacement onéreux pour des réflexions qui pouvaient aussi bien se faire à Paris, je lui en fis la remarque. Il me répondit : Ce qui m'est fait venir en Afrique, c'est qu'en Europe, nous sommes trop cérébrales. L'Afrique nous donne le cœur que nous n'avons plus assez pour réfléchir en homme et non en simple technicien du rentable et de la production. Fin de citation. l'Europe trop cérébrale. Voilà ce qui me fait voir l'urgence de la réédition de livres comme ceux de Bazin. Peintre de la vie des hommes de cette époque, certes, et qui fait date en notre temps où l'évolution galope à la vitesse des ondes de l'Internet, René Bazin réveille cependant notre cœur, non au sens de l'affectif et du sentimental qui ne tient pas longtemps la route, mais au sens du cœur profond qui fait l'homme et la femme de tous les pays et de toutes les époques. Non pour les niveler par le bas, mais pour les rassembler autour de vraies valeurs que sont la famille, le beau, le vrai, la vie, enfin. Car la vie est terriblement menacée par les idéologies qui la détruisent. Malgré des réussites fort belles dans l'art et les découvertes extraordinaires de la science, de la médecine, de la genèse du cosmos et d'une foule de techniques que les anciens comme moi ont du mal à comprendre. Mais finalement, comment ne pas voir que la fermeture de l'homme sur lui-même réveille chez les adolescents et beaucoup d'adultes, jetés dans le tourbillon des images violentes et artificielles, des visions de bonheur qui ne sont jamais assouvies parce qu'ils sont irréels? Qui se souvient que la Genèse enseigne que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu pour en être le chantre intelligent et libre, afin de l'embellir pour la conduire à son destin merveilleux? À l'opposé de la négation métaphysique de beaucoup de nos maîtres contemporains, le contraste me paraît saisissant de constater par exemple le triomphe des petits restes du corps de Thérèse de Lisieux qui depuis une dizaine d'années font le tour du monde en attirant des milliers de personnes venues prier en silence auprès de ses reliques. Ces textes, écrits et publiés après sa mort dans le style démodé de la fin du XIXe siècle, n'ont pourtant pas connu les médias du XXe pour être traduits dans toutes les langues. N'est-ce pas en raison du message que sa vie a donné et continue de donner? Message qui est justement celui du cœur de l'homme, redevenu simple, vrai, droit, ouvert à la détresse de l'homme qui a perdu la route de sa vraie destinée, celle d'être à l'image et ressemblance de son Créateur. Message ni violent, ni captatif de la liberté des autres, mais qui séduit les âmes simples et droites en recherche du chemin perdu. Signé Pierre-Dominique Cata, moine de Solesmes, 1946-1962, et de Cœur Moussa, depuis 1963, à nos jours. Avant-propos du général Jacques Richoux. Un vif succès accueillit Fils de l'Église dès que parut en 1927 la première édition, livre qui a été réédité depuis à plusieurs reprises chez MAM à Tours et chez Gigor à Paris. Dans l'avertissement de l'auteur en début d'ouvrage et reproduit dans le prochain chapitre, l'académicien écrivait: le présent volume, autant qu'il dépendra de moi, sera suivi d'un ou deux autres. Décédé 5 ans plus tard, l'auteur n'est pas parvenu à réaliser son projet. C'est précisément dans cet esprit qu'a été réalisée cette nouvelle réédition. Il avait écrit auparavant ou par la suite plusieurs autres vies de saints, Foucault, ou Pilis par exemple. Ces figures célèbres ont été béatifiées ou canonisées depuis. Ainsi, la présente édition a inséré dans l'ordre chronologique, au fil de l'ouvrage, 8 nouveaux visages de saints que l'auteur avait dépeints par ailleurs, autres ouvrages, préfaces ou conférences entre 1891 et 1932. Cette réédition a tenu à respecter l'essentiel du livre initial « Fils de l'Église », seul le dernier chapitre, traitant de la conversion d'Anglican, a été sensiblement réduit, du fait de développements techniques et juridiques quelque peu dépassés, en conservant sa présentation chronologique. Ce travail de recherche et de mise en forme a pu être réalisé grâce au concours de plusieurs adhérents de notre association, qu'ils en soient ici vivement remerciés. Signé, Général Jacques Richoux, président de l'association Les Amis de René Bazin. Avertissement de René Bazin. Le présent volume, autant qu'il dépendra de moi, sera suivi d'un ou deux autres. Voilà bien des années que je rêvais d'écrire cette œuvre. Les notes, dont je commence à me servir, je les avais presque toutes recueillies avant la guerre. Il convient peut-être aujourd'hui de les coordonner et de les ajuster. Les gens disent « les temps sont rudes ». Ils n'ont pas tort, mais quels temps furent doux. On se lamente trop. Pour ne pas cesser d'agir, il faut d'abord cesser de se plaindre. Nous avons besoin de retrouver la règle. À la bonne heure, mais ce ne sont pas les larmes qui nous la rappelleront, ni les dissertations qui nous la feront aimer. C'est plutôt l'exemple des hommes semblables à nous, faibles de nature, travaillés de maux et de difficultés voisins des nôtres, tentés comme nous par la tristesse, mais qui n'y cédèrent pas, qui furent plus riches de foi, de charité et de courage de vivre. Je ne me propose point autre chose si ce n'est de les montrer vivants. De quel siècle seront-ils ceux que j'essaierai de rappeler ainsi? De toutes les époques, et même de la nôtre. Quelquefois, je raconterai brièvement leur histoire, d'autres fois, il m'arrivera d'en signaler seulement un ou deux épisodes. Je m'arrêterai lorsque ses aïeux ou ses contemporains nous auront donné le conseil dont ils étaient chargés. Où les prendrai-je? Car leur multitude est grande. Je les choisirai chez nous, de préférence, parce que je les connais mieux. D'autres viendront des pays lointains, portant des noms étrangers, parlant une langue qui n'est pas la nôtre, mais tout pareil, de cœur et de foi, à ce que nous aimons le mieux. Seront-ils tous des saints? La plupart, puisque l'histoire des saints est le plus grand trésor que nous possédions, celui de la sagesse humaine formée à l'école divine. Cependant, il y aura aussi de simples chrétiens moins connus, de ceux qu'on ne prie pas, mais qui ont su prier. C'est une parenté, qu'importe le temps, qu'importe la condition et la race. Ils priaient, ils sont de la famille. Pour se diriger, ils ont eu la même étoile que nous. Ils ont couru les mêmes dangers, ils se sont heurtés aux mêmes ennemis du dehors, toujours pareil, depuis le commencement des guises, sauf de nom et de visage. Dès lors, si quelque trait nous est raconté de la vie de ces frères victorieux, une tendresse nous émeut, nous disant « Celui-ci était meilleur que moi, je ferai ce qu'il a fait. » Et souvent une douceur secrète, une gratitude demeure en nous de cette communion des âmes par quoi nous sommes aidés, sans que nos modèles aient pu le prévoir ou puissent le deviner. La chrétienté est une grande société de secours mutuel. Avant de raconter les fils de l'Église, n'est-il pas nécessaire de rappeler celui qui les désigne, les adopte, les soutient et qui seul les explique? Je l'ai pensé et ce sera le sujet du premier chapitre de ce livre. On n'y trouvera point une histoire abrégée de notre Seigneur. De nombreux livres ont repris et commenté le récit de l'Évangile. Plusieurs magnifiquement. Il en paraîtra de nouveau jusqu'à la fin des temps. Le dessin que j'ai formé est beaucoup plus simple et facile. Il n'y a pas de chrétiens qui ne songent quelquefois, ou souvent, à cette vie du Sauveur. Dans la cohue du monde, niant, outrageant, blasphémant l'éternel amour, nous sommes tous, comme la disciple, dans la foule du calvaire, et nous tendons notre âme vers le visage en larmes et flagellé. Aucun ne mérite ce qu'obtient Véronique. Nos voiles ne sont pas assez blancs pour que l'image sacrée s'y imprime. Mais de ce que nous avons vu et compris, des souvenirs demeurent dans notre cœur, quelques pensées également, qui sont l'hommage des passants de la rue montante, des témoins sans emploi et sans force. Peut-être il est utile d'en écrire quelques-uns au début de ce livre. Ils rappelleront bien imparfaitement celui que les chrétiens de tous les âges ont essayé de servir, leur modèle, leur ami, et l'Église aussi née dans cette souffrance et continuant de la vivre. Nos pères ont aimé les gros recueils de la vie des saints. Plusieurs signes nous avertissent que les générations présentes recommencent à aimer ces exemples des plus grands que nous. Elles y sont amenées par plusieurs raisons et par cette déception surtout que laisse dans les cœurs nobles la vaine recherche de soi. Autre chose, on se souvient alors, ou bien on s'aperçoit, que ces fils de l'Église, braves et compatissants, bons compagnons du travail et de la peine, se sont montrés les plus aimables des hommes et souvent les plus gais. Ils passent en chantant des cantiques. Leur manière ne ressemble pas à celle du monde, mais elle doit être la bonne, car la joie est en eux et grandissante jusqu'à la fin. On devine qu'ils ont un secret. Ils en ont un, en effet. Ils nous apprennent à dire, dès la veille, au milieu même de l'épreuve, le mot du lendemain, Alléluia. Signé René Bazin, avertissement de la première édition de Fils de l'Église.